confronté à un monde qui aurait dû changer, ben, il n'a pas changé. Et donc, on a offert la consommation à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a augmenté la croissance, puisque déjà, c'était la proposition de Léon Blum en 1936. Quand on lui a fait remarquer qu'il n'était pas possible d'augmenter autant les salaires, de donner autant d'avantages, Léon Blum, on peut dire que c'est un des pères de la croissance en France, a répondu aussi, parce que l'augmentation de la production viendra en fait régler les problèmes. C'est-à-dire l'augmentation de la production, il y aura plus de profits, donc on partagera plus les profits, donc on pourra en donner plus à tout le monde. À chaque fois qu'on a raté des étapes comme ça, et il y a un livre récent qui vient de sortir, bon, qui est un peu difficile à trouver, mais qui montre que ces étapes-là sont ratées depuis 1824, il y a des gens qui disent, on utilise les machines à feu, on fait brûler des carburants fossiles, donc on rejette du carbone dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Les glaciations, c'est très connu, c'est quand les plantes se sont développées, elles ont bouffé le dioxyde de carbone de l'atmosphère, ça s'est refroidi. Si on rejette le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ça va se réchauffer. Donc on en est là actuellement. Donc voilà ce qui se passe, c'est que si on veut consommer plus que sa part, et que le politique, c'est-à-dire celui qui est en charge du collectif, pense que chez ceux qui sont déjà riches au sens collectif, même s'il y a des niveaux de pauvreté, ils font encore augmenter leur part de richesse, on arrive effectivement à des limites. Et ces limites, bah, ce sont les limites physiques de la planète qui, pour l'instant, ne sont pas prises en compte. Alors, la croissance zéro, c'est tout simplement devant la peur d'avoir à diminuer. Il y a des gens qui se sont dit, le développement, ça ne marche pas, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rester là où on en est, donc on va dire que nous, ça y est, on a atteint la limite, donc on ne va pas trop rien changer, on va continuer comme ça, donc on va avoir, au lieu d'avoir tous des grosses voitures, on va avoir des Fiat 500 ou ce genre de choses, mais ça ne passe pas plus. L'idée d'aller chercher une baguette de pain avec une tonne de ferraille, c'est complètement grotesque. L'idée d'aller chercher une baguette de pain avec 500 kg de ferraille, c'est tout aussi grotesque. Donc voilà, la problématique, elle est là, c'est que notre mode de vie n'est pas soutenable. Et donc, on ne peut même pas avoir une stagnation d'une croissance à un moment donné, surtout au tournant des années 80, où de toute façon, on avait déjà dépassé la limite. Alors, vous imaginez maintenant.
Allez-y, Zinaïde, vous allez particulièrement travailler justement sur ce problème qu'évoquait le documentaire des rejets de dioxine, des gaz à effet de serre. Comment vous vous définiriez comme une objectrice de croissance
Pour moi, la décroissance, c'est un antidote à une espèce de mythologie collective qui est en cours d'élaboration autour notamment du développement durable et de cette manière de vouloir concilier l'inconciliable de sommets internationaux en négociation climatique, qui fait qu'on a l'impression effectivement qu'il se passe beaucoup de choses dans le champ de l'environnement et de son traitement politique. Et qu'en réalité, on est dans une totale contradiction, quoi. Qui fait que moi, je suis venue à la décroissance, parce que je pense que d'abord, la décroissance, c'est pas une idéologie, c'est une fatalité. Soit on accompagne, on anticipe, soit on prend dans la gueule sous forme de chaos politique et de déstructuration des sociétés.
Les médias ne véhiculent que des choses que de notre point de vue on va considérer comme négatives. Moi, je n'entends pas parler à la télévision de décroissance, j'entends parler que cette année, la croissance de la France sera de 1,7 au lieu de 2, je ne sais pas. Ouais. Je ne connais pas les chiffres.
Mais c'est considéré comme une catastrophe.
Voilà, et c'est une catastrophe. Alors qu'on devrait peut-être être un peu rassuré. Bon, et on ne dit pas aux gens qu'il n'y a pas de sujet sur l'art de faire son compost, alors que 20 millions de gens en France ont une maison individuelle, c'est pas compliqué de mettre ses épluchures au fond du jardin. Des choses comme ça, qui sont de l'ordre de l'éducation au quotidien, n'est pas accompli. Si bien que derrière tout ça, il y a un problème, et là on a une grosse responsabilité, d'éducation, tout simplement. Et pas seulement les petits. Je veux dire, les grands ont besoin d'être éduqués.
Les comportements individuels, c'est très bien, mais s'il n'y a pas, encore une fois, une prise de conscience beaucoup plus profonde de l'individu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ça seulement, ou il ne va pas faire son compost ou ses toilettes sèches, etc., parce que c'est la mode, il y a une mode énorme actuellement dans ce domaine-là, c'est très bien, hein, j'ai rien contre du tout. Mais il faut bien comprendre que ça ne suffit en aucun cas, même pas seulement à propos de la dimension politique, mais à propos de la dimension de conscience. Et ça, c'est pas très facile à faire comprendre. Quant à dire que la décroissance fait peur, je suis absolument pas d'accord avec cette vue. D'abord, vous seriez pas aussi nombreux si vous étiez tous effrayés. Et puis, on se rend compte que ça ne fait peur qu'à ceux qui ont quelque chose à perdre, d'une manière générale. On est dans une schizophrénie totale. D'un côté, le gouvernement nous dit, vous vous souvenez, après 2001, consommer, consommer, consommer patriotique. Et de l'autre côté, il regarde à la télévision le soir, ah, la planète va mal, tout ce qu'on vient de dire, la biodiversité s'effondre. Alors, bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ben, ils se replient sur la petite chose qui est à leur portée, et c'est très bien, mais c'est pas comme ça qu'on va changer d'orientation.
Si on prend une échelle de 100, parce qu'on dit on sait pas ce que les gens doivent faire, si quand on se donne des coups de marteau sur la tête, on sait très bien qu'au plus tôt qu'on s'arrête, au mieux on se porte. Et si on donne des coups de marteau sur la tête des autres, au plus tôt on arrête, au mieux ils vont se porter. Donc je vais vous donner une échelle de valeur, on va prendre de 1 à 100. Hein, et vous allez dire à votre enfant, arrête de te laver les dents en laissant couler le robinet. Donc vous allez pouvoir lui valoriser 0,5 points à peu près. Après, vous allez lui demander de ramasser le pot de yaourt qui est par terre et de le trier. On va rajouter, disons, 0,5 points ou 1 point. Puis après, vous allez aller un peu plus loin, vous allez lui dire, on va faire le compost. Disons peut-être 1 point, 2 points. Puis vous allez aller un peu plus loin, puis après, vous allez rester bloqué à peu près à 75. Et dans ces 75, voilà ce qu'il y a. 50, c'est la voiture individuelle. 25, c'est le bâti, le chauffage et à peu près tout ce qui est produit d'une manière ou d'une autre. Il y a la part industrielle et la part privée. Et les autres 25, c'est l'hyperdistribution, c'est-à-dire c'est l'agroalimentaire avec sa distribution par le système de camions gasoil qui va dans les hypermarchés. Donc ça, ce sont les enjeux. De 0 à 100, quand vous vous lavez les dents en fermant le robinet, c'est faible. Renoncez à la bagnole et puis vous pouvez vous laver les dents à vie en laissant l'eau couler. Voilà, c'est ça les enjeux.